1, 2, 3, 4. Crazy Afrobeat.
Radio Django, le grand direct, 18-19h.
Moins 20, on va y arriver. Ça cultive Lausanne avec toi, Tania. Bonsoir.
Bonsoir, Fabien.
Et tu vas nous parler ce soir d'un événement qui se déroulera mercredi ici, à deux pas du studio. Ce sera dans les locaux de Payot.
Oui, exactement. En fait, c'est un événement qui se passe le 23 mai dans toute la Suisse et qui est la première journée suisse de la lecture à voix haute. Et pour cela, on va accueillir Héloïse Pocri et Timba Bema, qui ont organisé un partenariat avec Payot, pendant lequel ils inviteront des lecteurs confirmés ou juste amoureux de lecture.
Oui, bien voilà pour le menu de Cultiver Lausanne. Et puis, juste avant 19h, nous allons lancer un petit coup de fil à Estelle, membre du groupe lausannois Marquise, puisqu'il lance ce jour une opération de crowdfunding, une récolte de fonds en bon français dans le texte, pour leur nouvelle EP. On en parle en toute fin d'émission. Mai 68, les enfants de migrants, la lecture à haute voix et la recherche de fonds de Marquise. C'est le programme de ce 146e grand direct à écouter sur Radio Django et Radio La Fabrique. Je suis Fabien, je vous accompagne jusqu'à 19h. Bienvenue à vous dans ce grand direct.
Radio Django, vivre à Lausanne.
Ce soir, dans la rubrique Vivre à Lausanne, nous vous proposons de faire un saut dans le temps, soit 50 ans en arrière. En effet, depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, vous n'avez sûrement pas pu passer à côté des innombrables articles et reportages en tout genre traitant des événements contestataires mondiaux qui se sont déroulés, souvenez-vous, c'était durant le printemps 1968. Dans un esprit grégaire assumé, Radio Django s'intéresse avec toi, Ségolène, ce soir à l'occasion de ce cinquantenaire aux mouvements sociaux lausannois qui ont marqué la fin des années 60.
Oui, alors pour ce faire, Fabien, nous allons découper ce foisonnant et complexe phénomène qu'est le printemps 68 en plusieurs volets. Ce soir, je vous propose de revenir brièvement et de manière très schématique sur quelques événements contextuels.
Mais alors, que peut-on dire sur le climat social et politique suisse dans lequel ont émergé ces mouvements contestataires, Ségolène ?
Alors là, je vais me baser essentiellement sur un article intitulé « L'impact des événements français sur le mouvement de 68 en Suisse », qui a été écrit par Nuno Pereira, qui est chercheur FNS à l'Université de Lausanne. Et ce dernier souligne que la révolte française, et en particulier son expression paroxystique parisienne, est largement relayée en Suisse par la presse écrite, la radio, voire la télévision. Donc elle y suscite un intérêt considérable, cette jeunesse suisse, surtout dans la région suisse-romande, puisqu'elle elle entretient des liens étroits avec la France. Donc les étudiants suisses suivent les événements français pratiquement en direct, et nombreux sont ceux qui s'y identifient. Donc le mouvement estudiantin helvétique, dont l'agitation dans plusieurs villes est bien antérieure au mois de mai, réagit du reste très promptement. Donc en fait, dès le 8 mai, diverses associations d'étudiants et de jeunesse de partis politiques envoient à l'UNEF, c'est l'Union nationale des étudiants de France, des messages où elles affirment leur solidarité avec les luttes des étudiants français et condamnent avec force la répression menée par le régime gaulliste.
Et puis, les associations d'étudiants suisses vont également s'inspirer des modes d'organisation des mouvements estudiantins parisiens.
Oui, tout à fait, Fabien. Cela, ça va passer par l'augmentation de la fréquence des assemblées générales, l'organisation du travail par groupe, ainsi qu'une large diffusion de l'information, que ce soit à travers le biais de tracts, de communiqués de presse ou autres, et encore le recours à l'action directe, donc la manifestation de rue, les occupations. Donc d'après Nuno Pereira, ceci va engendrer une sorte d'effervescence d'idées et de revendications porteuses d'une critique implicite du parlementarisme suisse, lequel, aux yeux des militants de 68, constitue une expression illusoire de la démocratie. Dès lors, à l'image de ce qui se passe en France, la contestation représente d'abord une libération de la parole, ritualisée dans de larges assemblées démocratiques appelées à devenir le seul lieu de pouvoir légitime. Donc, toujours selon Pereira, les étudiants suisses vont reprendre des slogans présents dans les mouvements français tout en les adaptant à la réalité locale.
Et puis ici, en Suisse, les étudiants convergent vers une identité commune.
Démocratisation de l'université, cogestion étudiante ou encore réforme de l'enseignement. Pereira souligne toutefois que dans les associations proches de la gauche radicale, un glissement s'opère entre des thèmes purement académique et une critique de la société dans son ensemble. Donc la jeunesse radicalisée s'imprègne dès lors d'idées relatives à un processus d'émancipation sociale et individuelle. Ces aspirations sont d'autant plus partagées par la génération contestataire européenne. Donc une critique sans concession de la société occidentale éclot et fustige notamment le conservatisme, l'autoritarisme ainsi que la société de consommation. À cela s'ajoute en Suisse une critique des élites et du conservatisme helvétique qui est perçue par les secteurs progressistes comme une chape de plomb qui pèse sur maintes sphères de la vie sociale et politique. Donc là, je cite toujours le même article. Donc en fait, en Suisse, les principales branches économiques bénéficient d'une forte gouvernance privée, dont l'ampleur, je souligne, n'existe dans aucun autre pays européen. Donc en fait, ça se matérialise par des conventions collectives de travail, des codes de conduite et autres accords cadres, symbolisant pour certains la paix du travail et atténuerait par conséquent les conflits sociaux grâce, semble-t-il, au partenariat social. En fin de compte, comme le dit Pereira, toute action revendicative du mouvement ouvrier est rendue quasi impossible. Donc, par ailleurs, les autorités helvétiques ont érigé un ordre social rigide légitimé à cette époque par la lutte anticommuniste. Donc on sait que la Suisse va s'aligner du côté des Américains, donc c'est pour ça qu'ils sont anticommunistes. Et toute forme de contestation de cet ordre s'expose à une surveillance quasi systématique et le fichage de la population suisse. Donc ça va prendre une proportion inconnue en Suisse et qui n'existe nulle part ailleurs, en tout cas en Europe occidentale. Donc là, vous pouvez penser à l'affaire en fait, des fiches.
Oui, bien sûr.
Et toujours concernant le contexte helvétique, face à la montée de la xénophobie, donc on a notamment en 68, on a le lancement de l'initiative Schwarzenbach. Et bien en fait, face à cette montée, des campagnes de solidarité avec les travailleurs étrangers ont également vu le jour. Donc en fait, les thématiques et les luttes mobilisées par les mouvements contestataires en 68 en Suisse sont vraiment plurielles.
Oui, c'est ce qu'on aura compris. Et puis, alors Ségolène, qu'est-ce qui se passe à Lausanne ?
Alors, à Lausanne, donc là, pour l'instant, d'après ce que j'ai pu trouver brièvement, en fait, il y a un mouvement composé d'étudiants lausannois qui s'est vraisemblablement formé à la suite des événements qui se sont déroulés dans la nuit du 10 au 11 mai 1968 dans le quartier latin de Paris. Donc là, il y a eu les monstres répressions à cette époque. Et là, l'Union des étudiants lausannois organise le 13 mai 1968 à l'avenue de la Gare une manifestation en solidarité avec les étudiants parisiens.
Et puis pour ça, il existe une vidéo, une archive qu'on va vous mettre en lien sur notre site internet. Et on constate notamment des banderoles. On nous fait même un signe en technique qu'on a cet extrait d'archive. On l'écoute.
Ce furent 400 à 500 étudiants et étudiantes lausannoises qui manifestèrent ce lundi 13 mai au bas de l'avenue d'Agar par solidarité envers leurs camarades français. De nombreuses banderoles illustraient les revendications estudiantines et firent mesurer la différence des problèmes qui se posent d'un côté ou de l'autre du Jura. Les orateurs ne firent pas de discours, mais donnèrent plutôt des consignes, et une lettre fut remise par une délégation au consul de France, après quoi un cortège bien discipliné, les étudiants gagnèrent l'aula de l'université où se tint une assemblée. En résumé, manifestation qui se passa dans le calme, sous les yeux d'un public plutôt sympathisant.
Voilà, donc il s'agit là d'une archive filmique datant de 1968 que l'on peut retrouver dans la collection publique du Cinéac Lausanne. Oh pardon, avec le micro ce sera encore beaucoup mieux. Voilà, on vous entend mieux.
Merci,
à la radio.
Voilà, donc oui, comme tu dis, c'est la radio, donc on n'a pas les images, mais en fait, dans ce court extrait de cette petite archive, on voit des jeunes gens brandissant des banderoles et des panneaux sur lequel on peut lire les slogans suivants.
Non à l'uni technocratique, oui à l'uni critique. 6% d'ouvriers, 14% de femmes dans les unis suisses, le pourcent le plus bas d'Europe. Alma maternaliste, vieille nourrice. Alma mater paternaliste. Ou encore, solidarité avec nos camarades français. Droits syndicaux aux étudiants. Non à l'immobilisme, confiant, prenons nos responsabilités.
Donc, il faut également souligner l'importance des syndicats étudiants post-1968, parce qu'à Lausanne, par exemple, on a le mouvement démocratique des étudiants qui était déjà vraiment actif dès 1956. Donc en fait, que ce soit à Lausanne ou dans le reste de la Suisse, les syndicats et les partis de la gauche parlementaire ont fait preuve d'une certaine méfiance vis-à-vis du mouvement étudiantin. Donc, ont été beaucoup plus discrets et vraisemblablement, on les voit un peu moins défiler comme ça dans la rue à ce moment-là. Donc, que ce soit à Lausanne ou dans d'autres grandes villes en Suisse, il y a également des mouvements qui ont émergé et qui manifestent dans la rue. Donc, ce sont des mouvements contre la guerre du Vietnam. Donc, ils dénoncent principalement aussi la participation de la Suisse à, je cite, à l'effort de guerre des États-Unis par la livraison d'avions Pilatus à Washington. Donc en fait, en résumé, les événements parisiens ont, selon Nuno Pereira, eu un impact psychologique certain sur la Suisse romande et sans doute joué le rôle de catalyseur du mouvement, contribuant à implanter solidement une volonté de changement. Donc cloisonnée dans un premier temps dans le cadre universitaire, la contestation suisse glisse vers une critique de la société dans son ensemble. Enfin, pour le chercheur, l'année 1968, même si celle-ci n'a pas revêtu le caractère spectaculaire des manifestations françaises, n'en a pas moins été le marqueur par une mobilisation de la jeunesse d'une ampleur sans précédent. Cette mobilisation s'inscrit dans des espaces multiples et a connu des temporalités diverses. Donc, par ailleurs, le contexte international ne produit qu'un impact significatif que lorsqu'il rentre en résonance avec les facteurs spécifiques locaux, donc en l'occurrence en Suisse.
Ouais. Et puis on aura donc l'occasion de revenir de manière un petit peu plus approfondie sur la thématique des mouvements lausannois du printemps 68 lors de toute prochaine chronique avec toi, Ségolène.
Oui, alors juste encore une petite chose, Fabien, pour celles et ceux que cela intéresserait, demain, mercredi 16 mai à 20h15 à la Fraternité, donc qui se trouve à la place Marc-Louis Arlot 2, aura lieu une conférence publique intitulée 1968, quels impacts en Suisse et en Europe de l'Est. Par ailleurs, le jeudi 19 avril à 20h15, également ici même à Pôle Sud, Fabien, aura lieu une conférence débat qui portera sur l'héritage de mai 68. Donc, pour plus de renseignements, je vous invite en fait à aller directement sur le site internet de Solidarité SEVO, car c'est lui qui organise en fait ces deux événements.
Directement à la source pour toutes les informations. Et puis, vous retrouvez tous les liens, évidemment, sur le site de la ville de Lausanne. Printemps 68 à Lausanne, un sujet proposé par Ségolène, un projet également à réécouter sur notre site www.django.fm. Et vous y trouverez également les sources mobilisées pour préparer cette chronique avec les liens pour en savoir plus et pour visualiser la vidéo dont on vous a fait écouter un extrait tout à l'heure. Une série de sujets traitant de mai 68 et du printemps 68 qu'on va prolonger d'ici l'été avec toi, Ségolène. Merci beaucoup pour ce soir, ce premier volet.
Merci Fabien, bonsoir à tous.
Une belle soirée à toi. Un peu de musique avant de passer à La Rose des Vents. Voici Billy Preston.
Nothing, leave nothing. And nothing. Believe you me. Don't you remember I told you I'm a soldier in the war on poverty. Yeah, yes, and
un petit peu de ragtime en ce début de soirée avec Billy Preston, Nothing for Nothing, titre sorti en 1974.
Radio Django, La Rose des Vents.
Bonsoir Anouche.
Bonsoir Fabien.
Et sur Radio Django, on va continuer cette émission avec toi à 18h18. Tu es rédactrice, Anouche, à Voix d'Exil, et on va parler ensemble ce soir de vulnérabilité psychologique des enfants de migrants.
Oui, tout à fait. On parle souvent de migration, mais rarement des enfants qui accompagnent leurs parents et qui font face à des difficultés migratoires. Qui est l'enfant de migrant ? Est-il aussi un migrant ? Ou fait-il partie de la culture et de la société de nouveaux pays, là où il est né et où il a grandi? D'une part, les abstractions juridiques ne permettent pas de reconnaître ces enfants comme citoyens du pays de résidence. Et d'autre part, la réalité, c'est que ces enfants ne connaissent que leur pays de résidence et pas leur pays d'origine. Souvent, ces enfants souffrent de problèmes psychologiques et les solutions ne sont pas faciles à trouver sans l'aide des professionnels.
Et pour en parler ce soir de ces réalités, ma foi, contradictoires que vivent ces enfants, tu as invité un spécialiste de la branche, Bernard Hunziker. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue sur notre plateau de Radio Django.
Bonsoir Monsieur Hunziker, vous êtes psychologue et responsable pour les mineurs non accompagnés au service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent du CHUV. Monsieur Hunziker, le terme de migrant désigne selon l'UNESCO, je cite, « toute personne qui vit de façon temporaire ou permanente dans un pays dans lequel il n'est pas né et qui a acquis d'importants liens sociaux avec ce pays ». Selon cette définition, les enfants des migrants qui sont nés par exemple en Suisse et qui ont donc grandi et créé des attaches ici, restent-ils selon vous des migrants ?
Merci de l'invitation. Non, je trouve cette définition très restrictive. C'est que le lieu où on est né était à l'origine, au 19e siècle, l'État-nation. On était français ou suisse de naissance. Maintenant, on est dans une époque de mondialisation avec des identités multiples, des attaches très diverses. Et je pense que cette définition, elle est très incomplète parce qu'on peut être dans une famille d'immigrés, né en Suisse, garder une très, très forte culture locale, n'avoir pas de papier en Suisse, qui modifie quand même beaucoup l'identité, qui fait qu'on reste un migrant, même si on est né ici, et d'autres migrants qui sont venus ici, que ce soit français, américain, ou même de pays beaucoup plus loin, qui s'intègrent extrêmement bien, puis qui ont vraiment une biculturalité complète, ça veut dire qu'ils sont pleinement d'ici et pleinement d'ailleurs. On peut tout à fait avoir deux identités, des identités métissées ou multiples.
Et quelles sont les racines que tisse un enfant avec le pays d'accueil ?
Les racines, c'est un grand mot. Il a des camarades, il a une langue dans laquelle il échange au quotidien. Il a le volume sonore, il a la sécurité ou pas. On est dans des pays ici où les enfants jouent moins dehors parce qu'on est beaucoup en sécurité. Il y a des cultures beaucoup plus libres. Peut-être même celle que j'ai vécue il y a 45 ans, où les enfants étaient beaucoup plus libres et bougeaient plus. Et je pense que la culture, c'est un ensemble de choses très difficiles à définir. Mais on peut peut-être parler déjà de langue, de mode de camaraderie, de fonctionnement de famille de manière tout simple, qui sont d'ailleurs même en Suisse dans une variété culturelle assez importante.
Et si on parle de l'âge, à partir de quel âge les enfants commencent vraiment à approfondir ces racines, cet attache culturel?
Moi, je pense que l'école est un immense facteur d'intégration. Mm-hmm. Il y a des fois des garderies plutôt, mais on sait que les familles migrantes ont peu accès globalement aux APEMS et aux garderies avant l'école enfantine. Qui pose des gros problèmes, c'est que beaucoup arrivent à l'école enfantine en ne sachant pas la langue, en n'ayant jamais joué avec nos jouets d'habitude, et ils sont presque en retard sur ceux qui ont déjà eu une énorme stimulation à la maison et dans ces lieux-là. Moi, j'ai travaillé avec des institutrices qui disaient qu'elles devaient faire du drill avec les jeunes de 4 et 5 ans pour leur faire rattraper leur retard de ce qu'ils n'avaient pas eu aux garderies précédemment. Donc, on tombe dans des drôles d'aberrations, mais qui montrent que la culture, des fois à la maison, avec des femmes qui sortent peu, des fois tenues plus ou moins de l'interdit de sortir, donnent déjà une impression sur le repli familial très, très important par rapport à d'autres qui sont beaucoup plus ouvertes et qui ont les moyens de sortir. La question économique est évidemment centrale aussi. À la découverte du monde.
Et dans votre pratique professionnelle, vous rencontrez passablement des familles migrantes. Quels sont les principaux problèmes que rencontrent les enfants dans leur développement psychologique?
Moi, je tiens beaucoup à dire qu'énormément d'enfants migrants vont bien. Je crois qu'il faut d'abord le rappeler.
Bon, c'est réjouissant.
Bah, oui. Beaucoup de la migration est un phénomène qui a toujours existé. Beaucoup d'enfants et d'adultes ont d'énormes moyens d'adaptation et ça se passe bien. Alors, des fois, ça coûte un peu cher au niveau économique, au début, au niveau permis, des instabilités, mais ça se passe bien. Donc, migration n'est pas égale à problème. Mmh. Dans le département de psychiatrie, on tient beaucoup à avoir le minimum d'unités pour migrants parce que migrants, ce n'est pas une pathologie. C'est un phénomène normal. Donc, après, on peut trouver certains troubles. Alors, il y a les mêmes troubles que les autres. Il y a des troubles du développement, des dyslexies, des différentes choses de ce genre qu'on peut trouver. Puis ce n'est pas parce qu'ils sont migrants qu'ils...
Ce ne sont ma foi que des humains.
Comme tout comme nous. Puis après, on peut avoir des questions qui sont souvent liées, je dirais, à l'instabilité de ce qu'on peut vivre dans la famille. C'est-à-dire des familles qui ont été déchirées par l'exil, qui ont vécu des traumas, qui sont en insécurité parce qu'elles n'ont pas les papiers pour rester, qui sont en instabilité. Où effectivement, la priorité des parents, c'est d'arriver à nourrir leurs enfants, à trouver les moyens d'existence et tout. Ils ont évidemment moins de temps pour s'occuper directement de l'enfant. Et les enfants ressentent immédiatement l'angoisse. Et ça, ça peut entraver leur développement. Et souvent, c'est un travail de sécurité, de travail sur la sécurité, sur les besoins de l'enfant. Mais on ne peut pas demander tout aux parents non plus, parce qu'ils vont au plus urgent, au plus pressé. Et c'est vrai que les enfants, déjà, si on leur donne un toit, un lit, la nourriture régulière et tout, le reste, ben, ils s'en occuperont quand ils pourront, quand ils auront la sécurité pour.
Et quand on dit souvent que voilà, l'intégration et l'adaptation sont plus faciles pour les enfants que pour les adultes, j'aimerais bien savoir, est-ce que c'est autant facile qu'on le croit et est-ce que c'est vraiment autant facile pour les enfants? Parce que quand même, il y a des changements de place, de la famille, de l'entourage, des amis, comme vous avez dit tout à l'heure.
Alors, autant facile, je ne pense pas. C'est peut-être plus facile, parce qu'ils sont de fait intégrés dans les écoles. Ils ont de fait des camarades, ils ont de fait un bain de langage. Comme leur cerveau est encore en maturation, comme leur personnalité, ils vont tisser des liens avec leur environnement immédiat. Quand on est adulte, on est déjà un peu rigidifié dans une langue, dans une culture. On sait tous qu'apprendre une deuxième langue à partir d'un certain âge est assez compliqué. Les enfants, de fait, dans un bain de langage, ils y arrivent plus vite. Donc, ils ont des facilités. À partir de là, il y en a qui le font sans aucun problème, qui arrivent à aligner plusieurs langues, des rapports comme ça, et d'autres où on sent que ça bloque. Est-ce que parce qu'ils ont l'impression de trahir la famille quand ils sont à l'école et qu'ils parlent une autre langue? Est-ce qu'ils sont en permanence inquiets pour leurs parents à la maison dont ils ont l'impression qu'ils vont mal quand ils sont à l'école? Donc, ils sont préoccupés par la situation de la famille, ce qui les empêche de s'investir. À partir de là, on a toutes les situations possibles.
Monsieur Onziker, après quelques années d'études dans l'école suisse, il se peut que l'enfant soit obligé de quitter le pays qu'il considère comme sa patrie, où il a déjà son monde, comme on a dit tout à l'heure, tous ses camarades, ses activités, son programme d'études même, parce que le système scolaire en Suisse est tout à fait différent. À quelles difficultés de réintégration scolaire, surtout dans leur pays d'origine, peuvent-ils être confrontés l'enfant? Parce que c'est tout à fait différent, c'est deux mondes différents. Voilà.
À partir de là, on peut toujours le voir comme deux choses opposées. Soit il ne sait pas la langue du pays dans lequel il va retourner. Dans ce cas-là, il est un primo-migrant. La famille peut vivre le retour comme une catastrophe, sans sécurité, arriver dans des conditions matérielles dramatiques. Et à ce moment-là, c'est un choc, c'est une perte d'à peu près tout. Et le risque, effectivement, de retrouver difficilement des accrochages pour tenir le coup, pour apprendre la langue et tout, peut être très, très compliqué. Si d'un autre côté, il revient dans un environnement où il a des personnes auxquelles il peut s'accrocher en sécurité, si la langue du pays d'origine a toujours été parlée à la maison et qu'il a un véritable bilinguisme dans la richesse des deux choses, il va peut-être voir ça comme une complémentarité qui peut lui permettre de se situer mieux. Ça dépend beaucoup de la qualité et des conditions de retour. On sait par exemple que quand la Suisse a renvoyé énormément de Kosovars, là-bas c'était dans des situations dramatiques, c'était des accords qui n'étaient pas respectés mais qui étaient respectés sur le papier, et c'était vraiment très très problématique. Les retours ont probablement été dramatiques pour les enfants, alors qu'on a d'autres retours qui se font des bonnes conditions. Les enfants rajoutent plutôt tout ce qu'ils ont appris ici à ce qu'ils savent déjà.
Et les parents vont-ils spontanément voir un pédopsychiatre? Parce que j'ai vu comme vous savez que dans certains pays, même n'existe parfois pas des pédopsychiatres. Voilà, il n'y a pas cette tradition d'aller voir un psychologue ou psychiatre parce que c'est considéré comme une maladie. Il n'y a pas cette tradition d'aller voir un pédopsychiatre. Comment il vient vers vous Est-ce que c'est facile au début?
Ben non, c'est un gros écueil parce que la psychiatrie, elle existe dans tous les pays du monde, mais sous la forme de l'asile psychiatrique, ce qui veut dire maladie mentale. Mm-hmm. Vu comment sont encore organisées aujourd'hui ces asiles psychiatriques, quand on y rentre, on n'en sort pas. Parce que même si on n'était pas très malade, l'hôpital participe à la continuité de la maladie. Je vous recommande d'ailleurs un film magnifique qui s'appelle « La Meglio Gioventù ». C'est un film de 6 heures qui raconte toute une histoire de l'Italie. Et on suit un psychiatre qui participe à la transformation d'une psychiatrie asilaire catastrophique à une psychiatrie du lien. C'est un film très, très touchant. Et souvent, ils arrivent avec ces représentations de maladie mentale en disant « Mon fils n'est pas fou ». Après, ils comprennent peu à peu, souvent avec des équipes mobiles. Je suis responsable d'une équipe mobile, c'est-à-dire qu'on se déplace vers et les gens découvrent qu'au travers du lien, beaucoup de choses se passent. Et c'est dans ce sens-là qu'ils peuvent finalement approcher un petit peu les psychologues, la pédopsychiatrie dans sa forme du soin, du lien, et qui n'est pas de la psychiatrie au sens asilaire et maladie chronique du terme.
Bernard Hundziker, une dernière question. Si vous aviez aujourd'hui une baguette magique, qu'est-ce que vous feriez pour ces jeunes enfants de familles migrantes?
Oh là là. Moi, je crois qu'on leur offre déjà beaucoup de choses sur l'accueil. J'essaierais de leur faciliter les choses pour qu'ils comprennent le mieux leur environnement, la double culture. Je pense qu'on peut voir la culture. Tout à l'heure, vous parliez au début de l'émission des initiatives Schwarzenbach, à l'époque.
La mai 68, printemps 68, ouais.
Où on devait devenir plus blanc que blanc. Là aussi, il y a quelques films tout à fait extraordinaires dans Les Faiseurs de Suisse, qui définit comment on devient suisse en devenant plus suisse que suisse. Et puis maintenant, je crois qu'on est sur le fait que c'est une très grande richesse d'avoir accès à deux cultures et de faciliter ça. Mais ça peut se faire que dans des environnements sécures. Et je suis catastrophé par une partie de la bagarre qui se passe en Suisse actuellement où pour ne pas intégrer les gens, on les met dans les situations le plus précaires possible. C'est une des politiques suisses pour qu'ils puissent repartir en disant qu'on les met dans telles conditions en Suisse qu'ils vont repartir. Il se trouve que comme c'est quand même nettement mieux que ce qu'ils vivent dans une partie du monde, ils restent. Et de l'autre côté, heureusement, on a une application de la Convention européenne, de la Convention mondiale des droits de l'homme et de la Convention européenne des droits de l'enfant qui donne énormément de droits pour les jeunes pour les situer là-dedans. Et on est beaucoup dans une tension entre une partie du droit qui vise à déstabiliser les choses ouvertement, je crois que c'est une politique, et une partie du droit qui permet heureusement de stabiliser les choses. Alors j'insisterai beaucoup sur cette stabilisation. Et pour imaginer d'ailleurs qu'en étant migrant, on peut être d'ici et être d'ailleurs, qu'on peut faire des ponts, qu'on ne peut être pas tout à fait la même personne ici et là-bas. Je connais l'histoire d'une adolescente qui, en rentrant au pays, tout le monde est catastrophé parce qu'elle n'est pas mariée avec enfant à 19 ans, puis ici, elle est gymnasienne. Et si elle sait jouer avec cette double identité, c'est assez drôle. Si elle en est handicapée des deux côtés, c'est un vrai problème. Donc j'aimerais faire des ponts et surtout de la sécurité, parce que je pense que c'est à partir de là qu'on se développe bien.
Eh bien, on retiendra ces beaux souhaits. Merci beaucoup, Bernard Hundziker.
Merci pour l'invitation.
Une très belle soirée à vous. Je rappelle que vous êtes psychologue, spécialiste en psychologie de l'enfance et de l'adolescence au SUPEA et département du CHUV. Merci beaucoup, encore une fois, de nous avoir rejoints ce soir.
Merci à vous.
Une très bonne soirée. Et merci à toi, Anouche, pour la préparation de ce sujet.
Merci à toi, Fabien.
À tout bientôt. Je rappelle que tu es rédactrice à Voix d'Exil, le média d'information destiné à l'expression libre des personnes migrantes en Suisse et ailleurs. Un sujet que vous pouvez bien sûr retrouver en lecture sur le site de Voix d'Exil, voixdexil.ch, et à réécouter sur le nôtre, www.django.fm. Yeah. Come on. See. I sit down by the window and stare. The blind is shut, but I don't care. I'm going up, I'm going down. I'm going nuts when you're not around. They'll have to paint a smile on me. They'll have to paint a smile on me. They'll have to paint a smile on me. If you wanna come meet me. No. So I say. You wanna go surfing? I say I'll stay in and I'll do some working. And when all is said and done, I can do nothing when you're gone. They'll have to now. Come on.
Smile on me. Paint to smile on me.
That's talking.
To smile on me.
Now.
If you won't come in.
They'll have to paint a smile on me. They'll have to paint a smile on me. If you wanna come meet me.
Voilà, ça c'est les fins qu'on aime bien en radio parce qu'elles sont moins, c'est net, c'est cash. Paint a smile on me, donc peint un sourire, voilà, c'est Black Yaya, ça donne un sourire en cette fin de Rose des Vents avant de passer à Cultiver Lausanne, 18h36.
Radio Django, culture.
Et c'est avec toi Tania, bonsoir.
Bonsoir.
Nous parlons de la première journée mondiale. Non, la première journée suisse, ça suffisait déjà pas mal. Nous parlons donc de la première journée suisse de la lecture à haute voix qui aura lieu le 23 mai 2018, donc cette semaine. Des animations, des lectures auront lieu dans les écoles, dans des familles, dans des lieux publics et dans des institutions diverses dans les quatre coins de la Suisse.
Alors exactement, puis à Lausanne, en plus d'autres nombreuses animations, la revue des situations des citoyens des lettres et les mancolis s'associe à la librairie Payot-Pépinet pour organiser cet événement. Chaque lecteur disposera d'une plage horaire d'environ 10 minutes pour lire à voix haute un extrait de son choix.
Et ce soir, pour en parler de cette thématique qui nous occupe de ce mercredi 23, nous avons le plaisir d'accueillir Héloïse Pocry. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes initiatrice de l'Aimancolie. Et à vos côtés, Tima Bema. Bonsoir.
Bonsoir.
Timba Bema, pardon. Oui. Excusez-moi d'avoir écorché votre nom. Vous êtes responsable de la revue des citoyens des lettres. Et vous, Timba Bema, vous nous proposez peut-être pour commencer une petite lecture pour annoncer la couleur du sujet de ce soir.
Oui, avec plaisir. Donc, je vais vous offrir, si vous me permettez, donc,
avec plaisir.
Les premiers vers donc, de mon poème « Les seins de la menthe » qui sort officiellement le 11 juin de cette année. Voilà, donc les premiers vers. « Maudits soient les seins de la menthe, dont le lait t'a comblé de vanité, et des poisons doux de cette folie douce qui brûle comme en enfer ton corps sur terre. Lait, lait, lait. Jet régulier bouillant sur la lèvre ouverte, le pied béant, à la générosité de la calebasse ornée d'une fresque de tortue debout sur les pattes arrière. Lait, lait, lait. Elle est partie dans les steppes du Nord, par le train de midi bondé de jeunes gens, des étudiants pour la plupart, le visage appuyé, doucement appuyé sur la crasse de la fenêtre mélancolique. Ton corps dans ses yeux s'est enfumé peu à peu, peu à peu, peu à peu. Lait, 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 lait. Sa route, avait-elle dit, devait bifurquer de la tienne, car une fatalité dictée par l'érosion lente et silencieuse des êtres dans les choses et des choses dans les êtres, voudrait que tout, mais alors tout ce qui est tressé, tout ce qui est noué, se détache en fil d'or que le soleil rouge de 5 heures enflamme à l'Occident. Alors elle devait partir avant que le destin s'accomplisse. Les fruits finissent toujours par mûrir, à tomber au pied de l'arbre et à pourrir quand la main feint d'ignorer la saveur de leur chair. Elle devait partir dans l'empressement, sans baluchon ni espoir, seule avec quelques souvenirs, souvenirs bleus des jours innocents, souvenirs des jours pères qui se dissiperont au carrefour de son dernier rêve. Partir. La survie en milieu hostile est un devoir qui surpasse l'amour, s'arracher dans les cris et la douleur pour se greffer ailleurs, dans une oasis au milieu du désert, car le cœur, cet organe d'argile sur un tour, peut-être remodelé, pour peu qu'on lui délivre jour après nuit, nuit après jour, sa ration d'eau et de cendre. Eau qui lave, purifie les pensées de leur double pernicieux, cendre qui couvre, prémunisse les visages de leurs propres reflets. Je vous remercie.
Merci Timba Bema.
Merci beaucoup pour cette lecture. Alors Héloïse, Timba, cette journée est une première suisse et est-ce que vous savez qui est à l'origine de cette initiative et quels sont ses objectifs, d'après vous, à la base?
Alors, c'est organisé par l'ISJM, Institut Suisse Jeunesse et Médias. Et Timba a fait ses devoirs tout à l'heure, il est allé se renseigner.
Voilà, justement.
C'est très bien.
Donc, en fait, l'ISJM, c'est un centre de compétences dont l'action s'étend sur toute la Suisse et qui vise à la promotion de la lecture, de la documentation, de la recherche et de la formation dans le domaine de la littérature pour jeunesse. Donc, l'ISJM a été fondé en 2002, donc de la réunion de la Ligue suisse pour la littérature jeunesse et de l'Institut suisse pour la littérature jeunesse. Et peut-être de bien aussi mentionner que l'importance l'importance justement de la lecture pour les jeunes est associée au fait que la lecture permet de développer l'imaginaire, donc chez des jeunes personnes. Elle permet aussi d'accroître leur capacité d'expression, hein, donc de communication, par exemple, en ayant un vocabulaire relativement fourni, donc pour dire simplement ce qui leur passe par la tête.
Et donc, c'est quelque chose qui vous touche, vous aussi, par rapport à ça, le fait que ça soit quelque chose de bénéfique aussi pour les enfants et pour leur, disons, comment, l'accomplissement aussi quand ils grandissent plus tard. Qu'est-ce que ça peut leur apporter ?
Oui, justement, parce que aussi l'expérience de la lecture, pour quelqu'un, par exemple, comme moi qui viens d'Afrique, donc du Cameroun en Afrique, la lecture à haute voix, c'est le premier stade de la transmission. Par exemple, c'est comme ça que l'enseignement se faisait par mes ancêtres. Donc, la transmission est au centre même de la lecture et c'est l'un des intérêts, justement, que je trouve à cette journée.
Comment est-ce que vous avez entendu parler de cette initiative de lecture à haute voix, Aloïse Pocry ?
Alors, je pense que j'avais vu passer l'annonce dans la liste de diffusion des bibliothèques suisses ou dans une autre newsletter, je ne me souviens plus. Et j'avais proposé à Timba s'il avait déjà quelque chose en tête ou bien si on pouvait peut-être faire quelque chose ensemble. Et c'est parti comme ça.
Et c'était quoi la première chose qui vous est venue à l'esprit ? Pourquoi participer à cette journée ?
Bonne question.
Question difficile.
Je pense que c'est pour le plaisir personnel aussi, parce que lire à voix haute, c'est agréable pour les auditeurs, mais aussi pour les lecteurs. Et moi, par exemple, j'aime beaucoup lire en public, Timba aussi. Et puis, c'est une expérience toujours intéressante pour tout le monde qui apporte beaucoup, pas seulement aux enfants, pour les adultes aussi, c'est agréable. C'est enrichissant, ça permet de partager des tonnes de choses. Et c'est cette envie-là, je pense, qui nous a fait partir dans le projet.
Et puis, pourquoi organiser finalement un tel événement dans une librairie ? Parce que apparemment, il n'y a pas que dans des endroits comme ça que ça va se faire.
Parce qu'il faut préciser que c'est organisé le 23 à la librairie Payot à Lausanne.
Oui, à Payot-Pépinet, oui, c'est bien ça. Bon, il faut déjà dire en fait une chose, c'est que la librairie Payot, c'est, on peut dire, dans le centre névralgique de Lausanne, c'est la place centrale. Je pense que quand même le nom déjà indique l'importance de cette librairie, première chose. Deuxième chose aussi, c'est que l'ISJM agit aussi pour le livre, forcément, parce que si on veut encourager la lecture, il faut que les jeunes lisent, et je pense que c'est même plus seulement une problématique pour les jeunes, mais aussi pour les adultes, parce qu'on sait que les gens lisent de moins en moins. Donc, le lieu idéal pour cette jonction entre lecture et puis le livre, forcément, c'est une librairie. Et puis, pour une institution comme Payot, ça a été juste évident pour nous que ça devait se passer là. Oui.
Et du coup, comment ça se forme un peu ce partenariat entre vous deux, donc entre la librairie et vous ? Est-ce qu'ils s'investissent d'une manière ou d'une autre aussi ?
Oui. Bon, peut-être déjà juste de dire, par rapport à ce que Héloïse a dit, quand il m'a parlé de cette idée, c'était lumineux. C'est-à-dire vraiment, c'est ça. Les bonnes idées ne demandent même pas beaucoup de discussion. Dès qu'elle me l'a dit, j'ai dit, allez, c'est bon, on y va.
C'était l'étincelle.
Voilà, c'était vraiment une super bonne idée. Et puis, bon, personnellement, elle sait que je l'apprécie beaucoup. Donc, quand elle émet ce genre d'idée, voilà, je sais qu'il y a toujours de bonnes choses qui arrivent, qui arrivent d'elle. Et donc, comment se met en place le partenariat ? On va dire que nous avons une conception, et je pense que Héloïse me rejoindra dessus, qui est que, certes, les artistes doivent pouvoir vivre de leur art, mais qu'il est aussi possible d'avoir la possibilité de faire une sorte de bénévolat culturel, donc de faire une promotion de certains événements culturels sans que ça nécessite forcément beaucoup d'argent. Et que là, c'est juste la volonté qu'il faut. Et donc, Héloïse avait cette volonté-là, moi aussi j'avais cette volonté. On a fait un meeting, donc on a discuté ensemble, et il est donc apparu qu'on devait contacter différents partenaires. On a fait un courrier, simplement, et puis on a eu une réponse favorable quelques semaines après.
Très bien. Et puis, est-ce que eux, même des gens de la librairie même, avaient eu envie finalement aussi de faire des lectures ou... Ça pourrait être une possibilité.
Bon, ils y ont pensé, mais simplement, je pense qu'ils avaient un peu été déçus par l'événement précédent qu'ils avaient organisé qui concernait le printemps de la poésie. Donc, ils avaient beaucoup investi et les retours en termes de vente, parce que je pense que vous avez très bien compris que c'est un événement, c'est un élément capital pour eux, étaient tellement faibles qu'ils étaient réticents. Donc, ils avaient cette idée en tête, mais ils ne sont pas allés compte tenu de la charge que ça allait leur demander. Donc, le fait qu'il y ait un partenaire qui pouvait, par exemple, s'occuper de l'aspect médiatique, l'aspect organisationnel, pour eux, c'était plutôt tout bénef parce qu'ils n'avaient qu'à offrir une chaise confortable, un micro, et un lieu.
Comment est-ce que ça va se passer cette journée du 23, physiquement dans la librairie, avec des chaises, un micro? Vous attendez combien de personnes, en gros, qu'on puisse se faire une idée, Héloïse?
Prévoir une fréquentation, je sais d'expérience que c'est un exercice très périlleux, donc je ne vais pas faire de suppositions. Après, voilà, ce sera le public, je pense, qui sera là un peu par hasard. Des personnes qu'on connaît, qu'on a prévenues, et puis des personnes qu'on ne connaît pas qui auront vu sur Facebook ou ailleurs les flyers, etc. Mais le nombre, je ne sais pas s'il y a, je sais pas, 50, 100 personnes, on sera super contents.
Mais Héloïse, si tu me permets, soyons un peu plus optimistes. Disons 200 personnes, quoi. Montrons à Payot Pépinet que quand nous faisons les choses, nous les faisons.
Vous les faites bien et en grande mesure.
Et je sais aussi que vous êtes les deux, tous deux, de deux manières différentes, investis dans l'écriture. Et je ne sais pas si vous voulez un peu parler de ces deux expériences. Je sais que toi, Héloïse, tu as un blog qui s'appelle L'Émancolie, sur lequel tu écris, tu mets des textes. Et Timba aussi, tu es responsable d'une revue, la revue des citoyens des lettres, c'est bien ça?
Oui, c'est bien ça.
Je sais pas si vous voulez me parler un peu de ça. Est-ce que c'est aussi quelque chose, donc, que vous pratiquez au jour le jour, qui vous a donné envie, du coup, de faire cet événement?
Oui, je pense que c'est lié, l'écriture, la lecture, et c'est une envie de partage qui devient à un moment donné plus forte que tout. Et L'Émancolie, moi, c'est... J'aime beaucoup l'animer, publier des nouvelles choses et puis partager, puis voir ce qui se passe après, les retours ou pas, quels qu'ils soient. Et puis, j'ai aussi publié sur le site mon premier livre, donc à compte d'auteur, après une expérience assez décevante avec une maison d'édition, qui m'a fait vraiment poser la question de pourquoi j'écrivais, pourquoi j'avais envie de partager, pourquoi j'étais allée chercher une maison d'édition, à quoi ça sert tout ça. Et vraiment, c'est un besoin assez vital, en fait, de partager, de communiquer, d'entrer en interaction avec les gens.
Donc, de partager aussi une passion au travers de cet événement, finalement, ouais. De l'écriture, mm-hmm. aussi, en plus de la lecture.
Oui, tout à fait, oui.
Et puis, pour toi, Timba, c'était aussi un peu cette envie de partager une passion avec des gens qui n'étaient pas forcément professionnels, qui sont des amateurs et qui ont envie de juste avoir une rencontre avec la lecture et l'écriture.
Oui, bon, disons qu'il y a déjà, je pense que quand on écrit, c'est parce qu'on a envie de dire des choses qu'on ne peut pas dire de manière ouverte parfois ou bien en face à face. Donc souvent l'écriture, c'est ce moyen-là grâce auquel on peut parler directement au cœur ou bien à l'esprit de quelqu'un d'autre et où on a la liberté du ton, c'est-à-dire qu'on peut s'exprimer et on n'est pas coupé. Hein, voilà, donc il y a déjà ce premier attrait là, parce que bon, je suis quelqu'un qui aime bien dire certaines choses qui ne sont pas forcément agréables à dire, et l'écriture le permet. Et maintenant, le fait de pouvoir lire, ça permet aussi d'incarner ce que j'écris. Donc, et pour moi-même aussi, ça me renvoie, disons, à une connaissance de moi que je n'avais pas forcément si je ne lisais pas. Et puis, le goût est simple, hein, parce que souvent, quand on se relit, après avoir écrit un texte, donc on se relit souvent à haute voix pour capter la musique. Et quand la musique nous plaît, on a envie que d'autres l'écoutent aussi. Et donc, c'est comme ça que progressivement, on arrive à faire des scènes slam où, par exemple, j'ai rencontré Héloïse et où l'idée d'organiser des lectures aussi se fait. Et peut-être juste, si vous me permettez, de rajouter qu'il y aura donc des lecteurs amateurs et des lecteurs et des écrivains, dont notamment dont Héloïse Pocri et Timba Bema. Il y aura aussi Eugène, donc qui est le parrain, hein, un des parrains officiels de la journée suisse de la lecture. Il y aura aussi Lolvé Tillmans, donc qui est bien connu. Il y aura Antoine Jacou aussi.
Très bien. Et donc aussi des amateurs.
Et puis aussi des amateurs. Voilà. Donc, et tout public. Hein, donc, c'est-à-dire que là, ce n'est même pas 7,77 ans, c'est de moins 9 mois. Donc dès que, dès que l'embryon est là, vous pouvez déjà l'amener à Fayot jusqu'à plus 102 ans, 107 ans, et ainsi de suite.
Et j'ose rebondir sur ce que tu disais avant sur les soirées slam. Est-ce que Héloïse, tu aurais juste envie de nous lire un petit extrait aussi, toi, d'un texte?
Oui, bien sûr, avec plaisir.
On vous écoute, Héloïse Pocri.
J'avais envie d'être tête en l'air, grimper des yeux par-dessus le mur au lieu de le prendre dans la figure, happer de grandes goulées de bleu, humer les éclosions de roses joyeux. J'avais envie de jouer la fille de l'air. Loin du monde, les cruels murmures en soigner les arrachements obscurs. D'oxygène me sédimenter une coquille bleue et revenir les joues en fête de roses joyeux. J'avais envie de pénétrer la lumière, en mille raies audacieux déchirer l'armure, cingler d'arc-en-ciel le blanc de ma voilure, danser frénétiquement en diablesse bleue sur les peaux à peau frottées de roses joyeux. J'avais envie d'asséner, non, arrêtez de me vouloir forte, non. Le coquelicot veut s'épanouir déridé entre mille sabots de chevaux cabrés. J'avais envie de jeter, merde, aux lâches, aux indécis, merde, aux égoïstes, aux pas finis, merde. Mais je crie, viens, viens exister, viens aimer, viens crever, expirons seuls et fragiles sur un mur au soleil, allez. Et surtout, n'oublie pas d'inspirer après.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Héloïse Pocri. Un avant-goût de ce que vous pourrez découvrir le mercredi 23 mai, donc la semaine prochaine, à la librairie Payot, place Pépinet. C'est au centre de ville de Lausanne, de 14h à 18h. Avec vous, Héloïse Pocri et Timba Bema, vous serez présents avec de nombreux autres lecteurs et évidemment auditeurs, personnes qui vous rendent visite pour cette journée suisse de la lecture à haute voix. Merci beaucoup d'être venu ce soir sur Radio Django pour nous parler de votre événement.
Merci beaucoup.
Peut-être juste un dernier petit mot pour les Lausannois. Si vous voulez poursuivre l'expérience de la lecture à haute voix, à 19h30 au Buzz, dont je ferai une lecture dans de mon poème Les Seins de la Menthe. Voilà.
Voilà, qui est transmis. Donc le 23 mai toujours. Hein.
Le 23 mai à partir de 19h30 au Buzz à la rue Hénin.
Voilà, la rue Hénin. Tout ça, c'est donné juste après cet après-midi. On vous rappelle encore brièvement l'adresse du site qui regroupe toutes les animations de cette journée littéraire dans l'ensemble de la Suisse, www.journee-de-la-lecture.ch. On vous le met en lien sur notre site, évidemment. Et puis on peut retrouver également Timba Bema sur votre site, hein, www.revuedescitoyensdeslettres.ch. En un mot, oui. .org. Et pour ce qui vous concerne, Héloïse Pocri, sur votre site, lemancolie.ch. Encore merci à vous deux d'être passés ce soir.
Merci.
Merci beaucoup.
Une très belle soirée. Merci également à toi, Tania, pour la préparation de ce sujet qu'on peut retrouver et réécouter avec tous les liens sur notre site www.django.fm.
Radio Django, 18-19h.
Et ce soir, on termine cette émission avec le groupe lausannois Marquise.
En 2043, je chine le made in China. Pour les gens de mon âge, c'est chic et tellement vintage. Quand je pense au plastique, je suis nostalgique.
Bonsoir Estelle.
Bonsoir.
Tu es l'une des membres de ce groupe Marquise et accessoirement aussi la chanteuse. On te reçoit ce soir quelques instants puisque vous allez sortir tout prochainement un nouvel album, hein, c'est même un EP.
Mais exactement.
Pour cela, vous avez besoin de quelques sous, vous avez besoin de fonds et puis vous lancez ce jour même une opération de crowdfunding. Explique-nous ça, Estelle.
Oui, alors donc comme tu l'as si bien dit, on va enregistrer notre premier EP, enfin, on l'a déjà enregistré, on va le sortir, on espère, cet été ou en septembre. On lance le crowdfunding aujourd'hui, car on a la recherche de soutien, de gros soutien. On a besoin pour l'enregistrement en fait, de l'EP, déjà une partie, mais aussi nous avons prévu de faire un clip audiovisuel. On a aussi besoin de sous pour ça et également pour une partie de notre tournée en Russie.
Voilà, parce que la tournée en Russie, ce sera dans les prochaines perspectives. Vous cherchez combien d'argent, Estelle, pour la réalisation de ce clip et de cette EP ?
Alors, on a mis un minimum de 5500 francs, mais évidemment que plus ne serait pas de refus.
Votre objectif, c'est combien, idéalement ?
5500.
D'accord. Si c'est plus, tant mieux.
Voilà, exactement, c'est ça.
Et puis aujourd'hui, en regardant à la mi-journée, en préparant cet entretien, il y avait déjà 60 francs. D'habitude, c'est quelque chose qui évolue vite, le crowdfunding.
Oui, alors tout dépend en fait. Là, déjà après même une demi-heure, on arrive déjà à 2600 francs, je crois. On a une personne très généreuse qui nous a déjà mis le pactole. Donc on est très contents. On espère que ça va continuer comme ça. Après, voilà, on aimerait toucher un maximum de personnes parce que l'idée, c'est aussi que les gens écoutent notre musique et puissent avoir leur CD ou leur vinyle ou leur code digital chez eux pour nous écouter toute la journée et qu'on puisse devenir, on va dire, connu dans la région et ailleurs.
C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Combien de temps dure une opération de crowdfunding ?
Alors, ça dure 30 jours. Donc là, même à partir d'aujourd'hui, il nous reste 29 jours. Et si on réussit à obtenir la somme, ben, on l'a, elle est pour nous. Même si on a plus, c'est aussi tout bénef pour nous. Par contre, si on n'arrive pas aux 5500 francs demandés, la somme est reversée en fait aux collaborateurs.
Voilà, donc jusqu'au 14 juin, si je ne me trompe pas, si mon calcul est à peu près juste.
C'est ça.
Très bien. Par où est-ce qu'on peut donner, où est-ce qu'on peut avoir les informations sur le crowdfunding ? Sur We Make It, j'imagine ?
Oui, alors sur We Make It, en tapant dans la barre de recherche Marquise, je pense qu'on le trouve sans trop de problèmes. Et également sur notre page Facebook. Donc si les gens vont sur notre page, donc Marquise de nouveau, ils devraient nous trouver sans difficulté. Et pour ceux qui ont Instagram, eh ben, on a mis aussi... sur la plateforme Instagram, sur notre page.
Effectivement, voilà de quoi vous orienter directement sur cette base de crowdfunding wemakeit.com. Concernant Marquise, Estelle, on en profite. Quelques nouvelles, quelles sont les perspectives futures, les actus, hein, tu nous parlais en début d'entretien d'une tournée en Russie.
Oui, tout à fait. Alors, on a le projet, enfin, on n'a pas le projet, nous partons en tournée en octobre cette année. Pour une dizaine de dates en fait, en Russie, on se réjouit beaucoup. On a également besoin de quelques sous pour cette tournée parce que nous coûtait quelque chose de partir là-bas. Donc voilà, on a une dizaine de dates sur 15 jours qui sont prévues dans divers endroits. On n'a pas encore les lieux, mais ça devrait venir sous peu.
Et puis en Suisse romande, quelques prochains concerts à venir ?
Alors, nous jouons le 21 juin à la Fête de la Musique à Fribourg et également le 23 juin à la Fête de la Musique à Neuchâtel.
C'est intercantonal, Marquise ?
Oui, tout à fait. On commence à... on espère pouvoir toucher aussi la Suisse allemande, mais pour l'instant, on est pas mal en Suisse romande. C'est très bien aussi.
Et puis, vous avez aussi revisité un petit peu votre spectacle, hein, si je ne me trompe pas.
Oui, tout à fait. On a beaucoup retravaillé sur... sur certains titres ben, pour justement l'enregistrement de l'EP. Et on travaille toujours, on remet souvent nos morceaux en question pour leur apporter toujours du meilleur, que les gens ne se lassent pas. Après, bien sûr, une fois qu'on a fixé les choses, on ne va pas non plus y revenir tout le temps dessus, mais on a une nouvelle composition qui va sortir prochainement avec notre nouveau clip. Donc on se réjouit beaucoup aussi de la jouer sur scène et puis de voir comment les gens réagissent par rapport à cette nouvelle composition.
Tout plein de belles nouveautés à découvrir donc pour vous, Estelle, avec vos acolytes Mathieu et Romain, le trio du groupe lausannois Marquise. Merci beaucoup pour ces quelques informations, puis plein succès forcément pour votre recherche de fonds.
Oui, merci à toi Fabien également.
Une toute belle soirée Estelle, à tout bientôt.
Merci, pareillement, à bientôt.
Estelle, membre et chanteuse du groupe Marquise et toutes ces informations qu'on vous redonne à wemakeit.com avec une petite recherche, le premier EP de Marquise. On vous met tous les liens sur notre site www.django.fm. Le Grand Direct s'est terminé pour ce mardi. On vous a parlé de mai 68, d'enfants migrants, de lecture à haute voix et de la recherche de fonds du groupe Marquise. C'était à l'instant, c'était le programme de ce mardi 15 mai sur Radio Django et Radio La Fabrique. Tous les sujets sont à retrouver à partir de tout à l'heure sur notre site www.django.fm avec tous les liens et les détails pour avoir plus d'informations. Merci beaucoup à Jonas, à la technique ce soir. Pour la semaine prochaine, eh bien, on va vous parler du suicide avec le Grap et puis de livres sous forme de longs poèmes, Les Seins de l'Amante, signé Timba Bema, qui était notre invité ce soir. On le retrouve la semaine prochaine. Le programme à découvrir mardi prochain dès 18h précise pour un nouveau Grand Direct avec Claudia aux commandes de ce rendez-vous hebdomadaire de Ville Lausannoise. Une émission qui sera écoutée comme chaque semaine sur radio.django.fm et sur Radio La Fabrique en DAB. D'ici là, on se retrouve sur les réseaux sociaux et sur Internet avec notre site django.fm et sur Facebook avec une petite recherche à Radio Django. Ça fait toujours plaisir, un petit pouce levé ou un petit partage. Dans l'immédiat, je vous souhaite une très belle soirée à l'écoute de vos programmes respectifs puisqu'il est précisément 19h. Belle soirée à vous.
Radio Django à écouter sur radio.django.fr.